France Musique. France Musique, les grands entretiens. Benjamin François.
Florence Malgoire, née un 9 mars après minuit à Dugny, et je suis violoniste.
Vous avez encore le temps de prêter l'oreille à d'autres répertoires que les musiques anciennes? Est-ce que de temps en temps, vous écoutez un concerto de Shostakovich ou la musique contemporaine, le jazz?
Oui, alors, le jazz. Alors, j'ai un faible pour Grappelli, que j'ai écouté à un concert à Pleyel il y a longtemps, c'était en 93. Je me suis prise au dernier moment, donc j'étais vraiment tout au fond. Et ce qui m'a fasciné, ça aussi, c'était une leçon de musique absolument extraordinaire. C'est son son si centré. Et il est arrivé sur scène avec des petits pas. Je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir de son violon? Il a une gestuelle, une technique tellement minimaliste. Et ça passait vraiment la rampe. Là, c'est le cas de le dire. On avait l'impression à la fois qu'on était au coin du feu avec lui. Et puis, toutes ces harmonies qu'il arrivait à sortir par un jeu très resserré, comme ça, geste hyper précis. Oui, j'écoute beaucoup de musiques différentes, comme je lis beaucoup aussi. Et puis, pour moi, c'est des cycles hein, de vie. J'ai, pendant 3 décennies, enchaîné les productions. Et maintenant, j'ai plus de temps. De temps en temps, je fais une production en tant que violon solo, là, comme en 2019, avec Leonardo Garcia Larcon, pour les Indes Galantes à la Bastille. Je vais refaire aussi une production avec lui d'Atis. Ça va être une sorte de boucle, puisque j'avais fait la première mouture avec William Christie. Je faisais les solos avec John Holloway. Et là, à Genève, donc je vais retrouver des étudiants aussi qui vont être stagiaires dans cette production. Donc je me réjouis beaucoup avec une mise en scène de Preggio Cage. Donc maintenant, c'est rare que je fasse des grosses productions. Je me consacre à chercher, j'ai des projets de recherche, à la musique de chambre, et puis à jouer, je reviens beaucoup à la musique classique et romantique en musique de chambre.
Sur corde en boyau?
Sur corde en boyau, avec les archets appropriés. Bon, je dois avouer qu'il y a 2 ans, il a fait tellement chaud, c'était après le confinement. J'étais dans le sud et j'avais des concerts. Et là, je cassais à peu près une corde demi par jour. J'ai mis une corde de boyau filet. Parce que vraiment, c'était pas possible, quoi.
Donc, filet, ça veut dire avec un fil d'argent autour.
Fil d'argent, voilà.
Sur la chanterelle?
Sur la chanterelle. Oui, moi, je suis pas, je trouve que ce que je dis aussi beaucoup à mes étudiants, c'est très important de s'adapter aux situations. On n'a jamais les situations idéales. Dans les tournées, je me souviens d'un concert qu'on avait fait à Santiago du Chili avec William Christie. Et le lendemain, on avait un concert à Rio. Et puis, on a attendu toute la journée quasiment à l'aéroport. On est arrivé à Rio. On est monté dans le bus. On s'est changé dans le bus et on a couru sur scène. On avait 3/4 d'heure de retard. Ça a été d'ailleurs un concert magnifique. Donc, au Brésil, à Rio, par exemple, il y a un taux d'hygrométrie, il y a parfois 95% d'humidité. Mais là, on n'avait plus de cordes et on est allé chercher du fil de pêche. Ça sonnait très mal. Et pareil, bon, on est revenu aux cordes en métal.
Du fil de pêche.
Oui, mais alors c'était épouvantable le son, ou des cordes de raquettes de tennis. Vraiment, on cherchait tous les moyens parce que voilà. Et voilà, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Lors d'un concert, une corde, elle va bouger. Donc, on ne sera pas accordé, on ne sera pas bien accordé. Il faut arriver, comme au football, à anticiper, à se dire là, la corde demi, elle a baissé d'un quart de ton, il faut monter son doigt d'un quart de ton. Voilà, je leur dis toujours, quand vous travaillez chez vous, si votre violon est désaccordé, habituez-vous à essayer de jouer juste avec cette corde fausse, et puis après, vous accordez. Ça arrive quotidiennement en concert. L'hygrométrie, on a de la fièvre, on n'a pas le temps de travailler parce que l'avion a du retard, donc on travaille à la table, on révise à la table, comme font souvent les claviéristes parce qu'ils n'ont pas à disposition un clavier. Les violonistes, on se rue tout de suite sur son violon, alors qu'on peut absolument travailler. On peut aussi, moi j'avais vu ça, alors c'est marrant parce qu'avec j'avais fait des spectacles avec Francine Lancelot. Grande danseuse, pionnière de la danse ancienne et chercheuse aussi, et j'ai énormément appris d'elle. Et Francine, donc, dans sa troupe, qui est danserie, on faisait un spectacle temporé, un magnifique spectacle, qu'elle voulait retracer les danses du médiéval au baroque. Il y avait un danseur, très doué, qui se chauffait avec les autres, et puis après, il restait en méditation, allongé. Et les autres lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais? On répète, là, on répète. Et lui, il disait, je visualise la chorégraphie et après je la ferai. Et là, je lui ai posé des questions. J'ai dit, mais comment ça, etc. Il m'a expliqué, notre corps se fatigue vite. Non, moi, j'ai appris cette méthode. Je visualise, je médite, je visualise. Et puis après, je danse. Ah, ça, je l'ai trouvé fantastique. Cette méthode de travail, maintenant c'est utilisé en sophrologie, c'est utilisé dans beaucoup de domaines pour les sportifs, pour les musiciens aussi maintenant c'est utilisé. Mais à l'époque, moi j'avais jamais entendu parler de cette méthode de travail, que j'ai trouvé vraiment fascinante.
Le disque représente une part importante de votre activité, Florence Malgoire. Je pense que vous avez un drôle de souvenir de votre premier enregistrement des suites de Bach, je crois.
Ah oui, oui, parce que c'était quand même mes deux premiers enregistrements, c'est Rinaldo de Handel avec mon père et les suites de Bach avec Sigiswald Kuijken. Donc on était deux minots, François Fernandez, un peu frère et sœur comme ça, et moi, à jouer les suites de Bach avec toute cette flopée de grands musiciens qui nous ont pris sous leurs ailes. Totalement magique, vraiment. De se retrouver en pleine campagne, en Allemagne, on mangeait assez mal en fait. Comme disait Robert Conan, il n'y a que les patates qui sont fraîches. Mais voilà, les Hollandais, les Hollandais jouaient beaucoup aux cartes le soir. Nous, on était émerveillés avec François.
Mais est-ce que l'enregistrement a bien eu lieu? Il me semble qu'il y a eu une annulation.
Ah oui, non, c'est la première répétition. François et moi, on arrive surexcités, complètement surexcités. Et là, on nous dit, ah non, 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 il n'y a pas de répétition parce qu'il y a un match de foot, je ne sais pas lequel, Hollande, voilà. Mais quelle déception. Là, on est retombé de très, très haut.
Vous arrivez encore d'écouter ces disques, ces enregistrements?
Pas d'une manière volontaire, toujours, mais il n'y a pas longtemps, à la radio, c'était une symphonie de Haydn, et j'étais dans la voiture, et puis je me suis dit, mais qui peut jouer? Et je me suis dit, ça, c'est la petite bande. Et effectivement, j'ai reconnu le son de la petite bande, très particulier.
Dans les ensembles dont vous avez fait partie, Laurence Malgoire, au début, Christophe Rousset vient vous chercher pour être une des marraines de son ensemble, presque, j'ai envie de dire.
Oui, alors avec Christophe, c'est une longue histoire parce qu'on s'est rencontrés aussi à La Haye, puisqu'il a étudié avec Bob von Asperen à La Haye. On a fait beaucoup de concerts en sonate, un immense musicien.
Il n'a pas du tout aimé son passage à La Haye.
Non.
Il le raconte d'ailleurs dans son autobiographie.
Oui, mais en revanche, on était une équipe de copains et bon, avec Christophe, on a fait beaucoup de concerts. Et puis quand il a créé son ensemble, effectivement, j'ai participé au début à l'ensemble. Et puis on a joué un couronnement de popée magnifique avec mise en scène de Pierre Audi. Et où j'étais là, où mon fils aîné était tout petit. Et on l'avait emmené à Amsterdam là, pendant un bon mois. On s'est un peu perdu de vue, mais j'ai adoré travailler avec lui, vraiment. Et puis, il se trouve qu'on s'est retrouvés l'été dernier parce qu'il m'a demandé un peu à la rescousse et c'était fabuleux. Et Christophe, c'est vraiment un musicien extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est quelqu'un de très important dans ma vie, tant sur le plan amical que musical.
Musique, les grands entretiens de Florence Malgoire.
Et un autre musicien que vous avez beaucoup fréquenté, c'est William Christie, qui est déjà apparu dans certains commentaires. Peut-être revenons sur cette personnalité. Comment avait-il l'habitude de travailler avec le premier violon que vous êtes ?
Alors, William Christie, c'est l'exigence. Donc, ses répétitions, c'est très exigeant. Le premier violon a déjà fait un travail en amont de mettre les coups d'archet.
Mais on ne discute pas, on ne négocie pas un tiré ou un poussé.
Ah si, ça peut se changer.
Une latitude.
Ça peut se changer, c'est-à-dire on est obligé, le premier violon, de préparer le matériel à l'avance. Et puis, selon la conception aussi du chef d'orchestre, ça arrive bien sûr qu'on change, qu'on trouve que c'est maladroit, que ça ne va pas avec l'option que choisit le chef. William, il est incroyable parce qu'il sait où il veut aller. Et il privilégie la vocalité, la conduite de la ligne. Et puis le moment du concert, c'est toujours un moment de grâce. J'ai fait des tournées fabuleuses avec lui, moult enregistrements. C'est beaucoup de Jardin des Voix aussi, avec ses jeunes chanteurs magnifiques. Des tournées dans les plus belles salles du monde, avec des acoustiques de rêve, des voyages très bien organisés. Des musiciens, quand il y a du travail, hein, j'espère que ça va continuer, malgré la pandémie, à ce qu'il y ait beaucoup de travail pour les musiciens. Quand on est dans une structure comme celle des Arts Florissants ou tous ces orchestres indépendants, le musicien arrive à la partition, son billet de train pris, sa chambre d'hôtel réservée. Les pieds sous la table, et là, a bien joué. Et donc, si le chef est exigeant, ça paraît un peu la moindre des choses, quoi. Et c'est ce qu'on découvre quand soi-même on doit organiser ses propres concerts, même de musique de chambre, le travail que ça représente d'organiser, de prévoir les programmes, c'est colossal.
Vous avez joué aussi avec William Christie en formation de chambre, notamment des œuvres à deux violons. Est-ce qu'il est différent en tout petit groupe qu'avec l'énorme ensemble que peut prendre les Arts Florissants ?
Ah oui, c'est vrai, il est très différent. Quand il est au clavecin, il partage complètement la musique de chambre. On est, disons, dans l'empathie, à égalité. Et quand il prend les rênes, c'est lui qui prend les rênes et qui sait ce qu'il veut. C'est très différent.
Lui, en revanche, il n'a jamais fait mystère que le violon d'Europe du Nord, un peu analytique, c'est pas son truc.
Ah, il aime la vocalité, il aime le chant. Puis on connaît son goût pour la musique française et donc le texte. Un musicien doit absolument consonner, voyeller et jouer avec le texte. C'est incontournable.
Est-ce qu'il vous laisse une grande liberté en définitive sur ce que vous croyez utile, sur ce que vous jugez bon de donner comme aide à l'interprétation en tant que premier violon?
Je pense que je percevais très intimement ses gestes, que j'aimais beaucoup, sa respiration, ses mouvements d'épaule, ses petits clins d'œil. J'étais beaucoup dans son geste et je ne me permettais pas de proposer une autre façon, parce que William, c'est exactement ce qu'il veut, que ce soit dans le tempo, dans le phrasé, dans les couleurs. C'est un coloriste. Donc, non, non, j'essayais d'être meilleur petit soldat possible.
Il y a des anecdotes particulières avec lui qui vous reviennent à l'esprit. On le dit parfois un peu colérique.
Ben, William Christie aime la ponctualité. C'était la ponctualité, c'est qu'on soit accordé à l'heure de la répétition, donc bien préparé avant. Si on change de diapason, qu'on ait vraiment changé les cordes et réglé son instrument, qu'on ne change pas à la dernière minute. Enfin, il est professionnel, très exigeant et très pointilleux sur les horaires. Et moi, une fois, j'étais à Genève. Je pensais avoir un jour off, vraiment en toute bonne foi. Donc en fait, j'étais restée à Genève parce que je voulais voir des violons. Donc j'étais allée chez un luthier, tout ça. Puis il faisait beau. Alors j'étais en train de me promener. Puis tout d'un coup, j'ai un coup de fil complètement affolé du bureau des arts florissants. Comment tu n'es pas à la répétition? J'ai dit non, je suis à Genève. Donc c'est pas demain la répétition. Moi, j'ai pris mon billet de train, tout bien pour arriver à l'heure. Et j'étais pas là. Et là, je me suis dit, je l'appelle. Et donc, il était vraiment furieux que je sois pas là. Il comprenait pas. Il est peut-être inquiet aussi parce que j'étais pas du genre à être en
C'est
retard.
pas le genre, oui.
Et puis, je me suis excusée. J'ai dit, écoute, William, je suis absolument désolée, mais je suis à Genève. Je me suis trompée. Tout va bien. Je ne sais pas du tout si tu me renvoies, renvoie-moi. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire, mais c'est vraiment, je me suis trompée d'un jour. Voilà. Et là, il paraît, parce que c'est les copains qui m'ont raconté, il a dit, oui, Florence est à Genève, elle est en train de se promener. Et il a éclaté de rire. Alors là, c'était tellement, voilà, ça c'était très drôle. Oui, c'était très drôle.
Das leichte Gefieder, die Wasser schwellt, die Fische gewimmeln, den Buben drückt der Tiere Last, den Buben drückt der Tiere Last. Doch war noch alles nicht vollbracht, doch war noch alles nicht vollbracht. Im Ganzen fehlte das Geschöpf, das Gottes Werke dankbar sehen.
Florence Malgore, il y a un producteur de France Musique que vous avez fréquenté de près, c'est Jacques Merlet.
Oui.
Il a beaucoup compté pour vous.
Ah, Jacques Merlet. Il a beaucoup compté pour la musique. Il a fait découvrir, je crois, beaucoup, beaucoup de gens par ses émissions la musique ancienne. C'est, on commençait, c'était un fou d'orgue. Et j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui parce qu'il venait à beaucoup de concerts, toujours avec son petit nagra, il enregistrait tout. Et j'allais souvent chez lui. On faisait beaucoup la fête. J'adorais l'entendre parler de la musique, de la littérature,
de
la cuisine. Oui, il avait dans sa cuisine, il avait un opéra de Schtroumpf. On s'amusait beaucoup. Et puis, bon, quand il a eu ses soucis de santé à la fin de sa vie, je suis pas allée beaucoup le voir, malheureusement, mais je suis quand même allée plusieurs fois dans le dernier EHPAD où il était, où il a une dame dont je ne connais pas le nom, qui était une dame qui faisait faire de l'art plastique aux personnes âgées qui étaient là et en difficulté, l'a fait peindre de la main gauche, et à tel point qu'il y a eu une exposition pour une vente de ses tableaux où il a joué d'ailleurs de l'orgue avec, il a improvisé à l'orgue avec le peu de gestes qu'il pouvait faire, et puis nous avions joué avec Laurent Stewart. Et il y avait beaucoup de monde, d'amis de Jacques Merlet à cette occasion. Et oh là là, des souvenirs, j'en ai mais tellement, parce que à Rome, à la Villa de Médicis, on avait visité la chapelle Sixtine quand elle était en restauration. Donc il y avait une partie toute colorée, enfin toute restaurée. Et il partait dans des discours philosophiques, il connaissait tellement de choses, très érudits. Et puis après, il pouvait pousser des colères parce qu'on était allé manger des très bonnes asperges en terrasse. Et puis, il y avait une dame qui ressemblait à une de ces vieilles tantes bourgeoises de Bordeaux qui avait un peu... Alors, il a dit, tu as vu cette bouche en cul de poule. Enfin, il pouvait passer d'un excès de thèse sur la beauté et de nous nourrir de sa fantaisie, de sa créativité à... misogynie, piquait des colères, voilà. Enfin, c'était un personnage haut en couleur que j'ai beaucoup côtoyé avec la bande de Bordeaux, France de Besse, Sylvia Gomez-Weiss, Irène Bloch, voilà, et puis tous les amis Jean, enfin, c'est plein de souvenirs. Et alors, moi j'ai toujours dit, Jacques Merlet, il enregistre tout, il est là tout le temps avec son agra, mais il faudrait que nous, on l'enregistre. Parce qu'il n'écrivait pas. Mais alors, c'est un conteur.
Et hors micro, hors micro.
Et hors micro.
En naturel.
En naturel.
Il s'agit là d'une danse, d'un divertissement. C'était certainement écrit aussi pour le plaisir des gens qui l'écoutaient. Est-ce qu'on peut dire, Florence Malgoire, de cette musique, vous qui l'avez travaillée longtemps ?
On peut dire qu'elle laisse libre l'interprète d'improviser énormément. Et en tout cas, dans cette sonate en particulier... Un thème est annoncé.
Il est exploité pendant un certain moment.
J'ai demandé à Pierre Antaille de nous donner la basse, justement, de ce ballo. Alors là-dessus, tout va s'édifier. Hein.
Oui. La musique se lance comme ça, progressivement.
Et on écoute ce ballo avec François Fernandez, Florence Malgoire... Pierre Antaille et Suzy Napper dans une pièce de Bonamente. J'espère que vous allez nous faire un petit peu danser aussi, parce que c'est une musique quand même qui évoque la danse.
Thank you.
Un extrait de l'émission Les Muses en dialogue de Jacques Merlet, intitulé La musique française et italienne du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, diffusée en 1981 sur France Musique, où Florence Malgoire et François Fernandez étaient au violon, Suzy Napper à la viole de gambe et Pierre Entaille au clavecin, et jouait une sonate de Giovanni Battista Buonamente. Fin de ce quatrième épisode, réalisé par Gilles Blanchard, avec Marie-Christine Ferdinand, Thomas Robin, Benjamin Vignal et Marie Chauveau. Je vous donne rendez-vous demain pour le cinquième volet.
À réécouter sur francemusique.fr.